Clairement, dans cette question de la fertilité, là, il y a des inégalités. Il y a l'inégalité sur le fait que les femmes, ben, nous, à partir d'un certain âge, ont les chances d'avoir un enfant issu d'une procréation naturelle diminue. La conservation est beaucoup plus compliquée que pour un homme. Donc, on sait aussi que les ovocytes sont plus fragiles, hein, que les spermatozoïdes lors de la congélation. Puis, le don n'est pas autorisé de la même manière. Donc, oui, je trouve ça très injuste.
On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. C'est alors que s'ouvrent une ou plusieurs parenthèses, entre lesquelles il va falloir l'écouter, comprendre les maux qui l'affaiblissent, les traiter ou apprendre à vivre avec, mais quoi qu'il arrive, un peu autrement que sans. Un sentier sinueux qui surgit au milieu de la route et sur lequel on vous emmène avec nous dans ce podcast. Que se passe-t-il quand la maladie, l'accident ou même des événements plus joyeux, comme la naissance, ouvrent une parenthèse dans nos vies ? Ce podcast vous est proposé par Hirs London, les cliniques Boisserre et Cécile, et Le Quotidien 24 heures. C'est un coup près que la plupart des femmes connaissent. Dès l'âge de 35 ans, la fertilité baisse. Alors, quand on rêve de maternité, mais que la vie nous mène sur d'autres chemins, la congélation des ovocytes peut permettre de gagner du temps. Aussi nommée cryoconservation ovocytaire, cette méthode consiste à prélever des ovocytes après stimulation ovarienne avant de les congeler dans de l'azote liquide. Ils sont ainsi stockés en vue d'une grossesse ultérieure. À 35 ans, Rachel, atteinte d'endométriose, a fait ce choix après plusieurs années de réflexion. Une décision pas si facile à prendre alors qu'elle est elle-même sage-femme.
Je pense que, bah, comme chacune, peut-être, on imagine plus jeune que la vie serait faite d'une certaine manière. On a certains rêves, certaines idées de, voilà, de peut-être de faire une rencontre, d'avoir voilà, une vie de famille comme on le souhaiterait à un âge donné. Et puis, le temps passe, la vie fait qu'on fait des rencontres, on fait des formations, on s'investit dans d'autres choses. Et puis, je pense que j'avais dans mon idée que ça serait plus simple, en fait, tout simplement. Et puis aussi une envie de passer par quelque chose de naturel. Moi-même, je suis sage-femme, j'accompagne plutôt la grossesse, la naissance dans la physiologie. Et puis j'ai vraiment cette envie de pouvoir passer par quelque chose de naturel. Et puis c'est vrai que médicaliser cette étape-là par la ponction, puis ensuite obligatoirement passer par une médicalisation, hein, donc on est obligé de passer par une fécondation in vitro et un transfert d'embryon. Ça remettait un petit peu en cause tout ce que j'avais imaginé, en fait.
Le docteur Pradervan, gynécologue spécialiste en infertilité du couple et préservation de la fertilité, affilié à la clinique Cécile.
Nous, on considère que c'est une manière de soulager les femmes d'une autre pression qui existe, à savoir celle de l'horloge biologique, puis de leur offrir une possibilité de concevoir le planning familial différemment, c'est-à-dire choisir de ne pas avoir des enfants quand on ne veut pas en avoir, mais se laisser la possibilité, éventuellement ultérieurement, d'avoir des enfants quand c'est le bon moment. Et encore une fois, de ne pas être uniquement dépendante du temps qui passe, du conjoint qui est là ou pas là, du planning professionnel, etc.
Je pense qu'un élément marquant, ça a été une connaissance à moi qui m'a parlé de sa propre expérience de procréation médicalement assistée. Et un jour, elle m'a quand même dit, Rachel, si j'avais su avant, je pense que j'aurais fait des démarches plus tôt. Étant donné qu'elle était à un âge plus avancé que le mien à ce moment-là. Ça m'a beaucoup touchée, et puis j'avais vraiment aussi gentiment le temps qui passait, et puis l'impression que les choses n'évoluaient pas dans ma vie personnelle comme je voulais, et vraiment cette urgence d'avoir en quelque sorte une petite garantie que ça fonctionnerait plus tard.
Un choix qui requiert de prendre en considération plusieurs paramètres.
Il faut considérer que la procédure elle-même va nécessiter quand même, je dirais, 3 à 4 semaines de disponibilité. Donc il faut pouvoir planifier ça dans un agenda un peu chargé ou dans des voyages. Il faut considérer malheureusement une dimension financière, puisqu'en Suisse, c'est une démarche qui n'est pas couverte par l'assurance maladie. qui sera aux frais de la patiente et qui va coûter, dépendamment de la situation de chacune, dans les 7000 francs. C'est le prix qu'on articule pour nos patientes. 7000 francs qui inclut la totalité du traitement et de la prise en charge, ainsi que le coût des médicaments, qui n'est pas négligeable, mais la variabilité de ce coût est essentiellement liée justement à la quantité de médicaments que la patiente devra utiliser. En principe, chez une jeune femme, et c'est pour ça qu'on recommande d'envisager le traitement relativement jeune, la réserve ovarienne, donc la capacité des ovaires à produire des ovules, est censée d'être préservée et donc bonne. Ça veut dire que c'est des ovaires qui, une fois qu'on les stimulera, devraient être capables de nous fournir un nombre satisfaisant d'ovules. Et puis, au-delà de ça, la qualité ovocytaire devrait être conservée également. Donc, en alliant, ces deux variables, on devrait être capable de maintenir pour la jeune femme des chances raisonnables de grossesse le jour où elle aura besoin de ses ovules. Mais effectivement, on a des patientes qui, malheureusement, même à un jeune âge, ont déjà une réserve ovarienne diminuée. Et puis, accessoirement, on n'a pas que des patientes qui viennent nous voir à 35 ans. On a des patientes qui se posent cette question à 37, 38, 39 ans pour tout un tas de raisons. Et qui à ce moment-là auront besoin potentiellement de plusieurs cycles de stimulation pour pouvoir congeler un nombre satisfaisant d'ovules. Donc en gros, les deux variables, c'est l'âge pour la qualité ovocytaire, la réserve ovarienne pour la quantité d'ovules. Et plus la patiente est jeune, moins on aura besoin de quantité. Plus la patiente est âgée, plus on aura besoin de quantité pour pallier en fait cette diminution de la qualité ovocytaire. Donc oui, il faut potentiellement prévoir plusieurs cycles de stimulation. C'est ce qu'on va essayer d'affiner et de définir avec la patiente quand elle vient nous voir en consultation.
Rachel s'est aussi interrogée sur le lieu où réaliser sa cryoconservation, en Suisse ou à l'étranger, où la procédure affiche généralement un coût moins élevé.
J'ai de la chance d'être suivie par quelqu'un qui m'accompagne dans le cadre de l'endométriose également et qui propose des suivis dans le cadre de la PMA et donc de la préservation de la fertilité. Donc naturellement, je l'ai contacté lui. J'avais aussi déjà réfléchi de ce côté-là assez rapidement sur quelle option je prenais en Suisse ou à l'étranger. Est-ce que je le faisais dans un centre de procréation médicalement assistée avec un suivi peut-être un peu moins personnalisé ou auprès de mon gynécologue. Après, moi, j'étais au courant de ce genre d'alternatives parce que je suis dans le domaine de la périnatalité. Puis, à force, je me suis aussi un petit peu intéressée. Mais mon choix s'est assez vite tourné vers un suivi plus personnalisé avec mon gynécologue. Je me sentais plus en confiance de ce côté-là. Et a posteriori, imaginer un suivi comme je l'ai fait à l'étranger, seul, je ne crois pas que ça m'aurait convenu du tout.
Le risque principal, si on reste dans l'idée que ces patientes se rendent dans des pays où les normes qualitatives et sécuritaires sont assurées, ce qui est quand même le cas de la plupart des patientes, le risque principal, c'est de ne pas faire d'économie, en fait. La réalité dont nous, on se rend compte en faisant les calculs avec nos patientes et en se promenant sur les sites internet, c'est qu'une fois que vous avez mis bout à bout les coûts des traitements qui sont annoncés là-bas, mais qui généralement ne tiennent pas compte de la totalité des coûts, c'est-à-dire que le traitement médical est en principe pas inclus, les médicaments sont en principe pas inclus, voire la cryoconservation sur les années, donc le maintien en fait de ce stock d'ovules, plus un ou deux allers-retours en avion et puis éventuellement une nuit d'hôtel. On se retrouve face à des coûts qui restent sensiblement les mêmes que ceux qu'on peut avoir chez nous.
Rachel commence sa démarche avec son gynécologue à l'automne 2022.
Il m'a proposé un premier rendez-vous pour faire un bilan de fertilité, sachant qu'il connaissait déjà quand même ma situation et ma problématique. J'ai de la chance avec l'endométriose de ne pas avoir d'atteinte au niveau des ovaires, donc ça c'est plutôt chouette. Donc il y a tout un bilan qui est refait où ils vont regarder en fait la réserve ovarienne, ils vont faire une échographie et puis également faire des tests sanguins. Et puis dans un deuxième temps, on a déjà le résultat de ce bilan-là. Cette première étape-là, elle n'est peut-être pas forcément facile parce qu'il y a certains diagnostics qui peuvent être posés. J'ai une connaissance qui est partie aussi dans une préservation de la fertilité. Et puis, suite à ce premier bilan, elle a appris qu'elle avait aussi certaines problématiques qui n'étaient pas connues. Donc, c'est quand même une étape qui peut aussi un peu chambouler. Et moi, pour ma part, le bilan, il était pas incroyable ni catastrophique, si je peux le dire. Et ça m'a quand même fait un petit coup, quoi. Il y a quand même ce côté où on sent que l'âge avance, puis après on se dit, bon, bah, en plus, il y a le résultat de savoir bah, combien j'ai d'œufs dans le panier pour la suite. Donc ce rendez-vous-là, il est important, et puis il va donner aussi le ton sur la suite de la prise en charge.
On commence par une consultation informative, on lui explique un peu la procédure, et puis on va revoir la patiente pour un examen médical avec une échographie et puis une prise de sang. On revoit ensuite la patiente en consultation, donc c'est un troisième rendez-vous au cours duquel on évalue avec elle les chances de succès de sa cryopréservation basées sur les résultats des investigations qui ont été menées. À partir de là, on peut se lancer dans le processus lui-même.
À partir de 35 ans, la qualité des ovocytes décline déjà. Il est donc souvent nécessaire de passer par plusieurs stimulations ovariennes pour maximiser le nombre d'ovules cryoconservables.
Alors moi, c'est naïvement, quand j'avais signé pour partir sur cette démarche-là, je m'étais dit une fois, un cycle, et puis ça sera bon. Et assez rapidement, avec le bilan en fait, de fertilité qui est effectué, j'ai réalisé que ce ne serait pas possible. Donc mon médecin m'a expliqué que probablement, que, vu l'état de la situation, on devrait passer par deux stimulations. On commence par un traitement par voie orale, pour mettre un petit peu les ovaires au repos, les synchroniser en fait pendant quelques jours. On va faire un bilan échographique avec le gynécologue et puis on va commencer ensuite les injections de stimulation. Donc c'est vrai qu'il y a un apprentissage à avoir. De mon côté, j'étais facilitée par mon métier, mais c'est vrai que c'est quand même un pas à faire. Et même pour moi, c'était pas évident au début. Donc je peux imaginer pour certaines femmes que c'est pas facile. D'autant plus, ça requiert aussi des compétences juste pour préparer les seringues. En fait, on nous demande quand même de le faire. Et ouais, c'est pas forcément évident. Et je peux imaginer que certaines femmes, ça doit être une étape plus compliquée.
On a à l'heure actuelle des préparations qui sont assez user-friendly, où vous avez des petits stylos qui permettent à la patiente de faire l'auto-injection. Il demeure pas moins qu'on doit se piquer tous les soirs avec une, voire deux préparations différentes pendant 10 à 12 jours. Il faut savoir que les hormones qu'on utilise pour la stimulation ovarienne, c'est les mêmes hormones que la patiente sécrète elle-même via son hypophyse tous les mois jusqu'à sa ménopause et même au-delà, puisqu'en ménopause, la patiente sécrète ses hormones à des doses stratosphériques, bien plus élevées même que celles qu'elle devra s'injecter pendant notre stimulation. Donc, même si évidemment, ce n'est pas ses hormones à elle, fondamentalement, les injections qu'elle va utiliser sont tout à fait comparables à ce à quoi elle est déjà exposée. Donc, on a besoin de ces hormones parce que l'ovaire, dans son état naturel, produit à chaque cycle un seul ovule qui va être ovulé et mis à disposition pour une éventuelle grossesse. Le but de la stimulation ovarienne, c'est qu'il nous produise un nombre supérieur d'ovules, en fait autant qu'il puisse, nous on va le challenger avec notre stimulation hormonale pour qu'il puisse nous donner autant d'ovules que raisonnablement possible pour permettre à la patiente d'avoir le maximum de stock finalement.
Rachel, elle, a subi un certain nombre d'effets secondaires pendant ses stimulations ovariennes.
Les premiers symptômes, ça a été avec le traitement oral, c'était des impatiences dans les jambes et puis des insomnies. Ensuite, on va avoir des effets au niveau de l'humeur, quand même, qui sont pas négligeables. Les hormones sont puissantes, les femmes le savent, déjà à d'autres moments de leur vie. Je pourrais le comparer un petit peu à un syndrome prémenstruel assez fort, enfin une labilité de l'humeur importante. On a plein d'ovocytes qui grandissent, et puis à la fin, j'avais vraiment l'impression d'avoir deux pamplemousses dans le ventre. Donc on a vraiment le ventre qui gonfle, on est ballonné, on peut avoir des faux besoins aussi au niveau... Enfin voilà, tout est un petit peu chamboulé là-bas en bas, donc c'est pas une période où on va faire des activités physiques intenses. À la fin, moi j'ai eu des nausées, des vomissements et des céphalées. Donc voilà, selon... vraiment la dose d'hormones en fait, et la réaction propre à chacune. Moi, j'ai eu ce genre de symptômes. Et puis ensuite, après la ponction, on va avoir aussi des symptômes, des douleurs, des fois des petits saignements. Et puis quand même, cette impression d'être gonflé, qui reste quand même pendant bien une semaine, où on va rester tranquille et puis prendre des antalgiques si nécessaire.
Les effets secondaires de ces injections ne sont pas directement liés aux hormones elles-mêmes, elles sont liées en fait à la réponse ovarienne. C'est-à-dire que plus l'ovaire va être capable de répondre à la stimulation et de produire d'ovules potentiels, plus l'ovaire lui-même va sécréter ses propres hormones, les fameux œstrogènes. Et c'est cette réponse-là qui va générer les effets secondaires. Les effets classiques, c'est de la fatigue, qui est souvent décrit par les patientes, des maux de tête, des ballonnements, tiraillements dans la poitrine, et puis des sautes d'humeur. Je dirais que c'est ça, en général, dont les patientes se plaignent le plus.
Des effets qui n'ont heureusement pas perduré très longtemps.
Moi, ça a été assez rapide. J'étais contente après une dizaine de jours. Mes ovocytes étaient matures, étaient à point. Et puis, ensuite, on va faire un bilan, voir si les ovocytes sont à une bonne taille. Et à ce moment-là, aussi en fonction du taux d'hormones, ils vont déclencher l'ovulation. Et puis ensuite, dans les 36 heures qui suivent ce déclenchement, normalement, la ponction est faite. Donc c'est très... il faut être disponible aussi, avoir une grande disponibilité pour les rendez-vous échographiques, les prises de sang, puis ensuite le temps de l'ovulation et la ponction.
Une fois que les ovaires ont présenté une réponse qui est satisfaisante, qui présente pour nous une probabilité importante que l'ovaire sera capable de nous fournir des ovules matures, parce qu'il y a encore ça, il y a le nombre, mais il faut qu'il soit mature. Alors à ce moment-là, on va déclencher l'ovulation. L'ovulation, ce n'est pas un processus immédiat, c'est un processus qui va prendre plusieurs heures et puis au cours duquel non seulement l'ovule va éventuellement quitter l'ovaire, mais surtout au cours duquel l'ovule va achever une première partie de sa maturation. Et ça, c'est une étape capitale pour qu'on puisse congeler, nous, des ovules qui ont un potentiel d'être fécondés ultérieurement. Alors, on déclenche l'ovulation et puis on sait qu'on a un délai limité mais existant jusqu'au moment où on va pouvoir faire la ponction. Donc 34 heures après l'injection du déclenchement, on va revoir la patiente à la clinique, c'est pas 34 heures, c'est 36 heures, pardon. On va revoir la patiente à la clinique et puis on va faire la ponction. La patiente vient à jeun au CPMA. Elle bénéficie d'une anesthésie générale qui est en fait une sédation, ça correspond à une grosse sieste, donc la patiente n'est pas intubée, elle respire toute seule, par contre elle est effectivement pas consciente de ce qui se passe, et puis nous on va pouvoir aller chercher les ovules directement dans les ovaires, en passant par les voies naturelles, donc de nouveau une échographie gynécologique transvaginale, on monte une aiguille le long de la sonde d'échographie, et puis on va pouvoir se coller contre les ovaires avec la sonde d'échographie. Et en fait, on va simplement passer à travers la paroi vaginale, qui est une muqueuse souple, et puis se retrouver directement dans l'ovaire, à l'intérieur duquel on va pouvoir aspirer les ovules.
J'ai eu la joie de terminer ce processus avec 20 ovocytes. Et puis, c'est joli, les secrétaires de mon médecin à la fin m'ont dit « Ah, mais c'est génial, on dit que 10, c'est parfait par ponction, c'est aussi la qualité qui est importante. » Donc voilà, c'est aussi de me dire « Non, mais c'est génial, 20. » Alors que j'aurais espéré un petit peu plus. Et en rigolant avec une amie qui est aussi passée par là, on devient un tout petit peu obsessionnel sur le nombre de ovocytes qu'on va ponctionner à la fin. Je pense que les hormones, ils sont pour quelque chose aussi.
Évidemment. Il y a une dimension émotionnelle qui est majeure, puisque la patiente, si elle a choisi de faire cette démarche, c'est qu'elle valorise a priori ce projet éventuellement de maternité future. Et donc, quelque part, le nombre d'ovules qu'on lui annonce représente pour elle cette possibilité de réalisation ultérieure de son désir de grossesse. Oui, c'est un moment qui est particulier. C'est assez rare, par contre, qu'on ait des surprises majeures, c'est-à-dire qu'en principe, au cours de la stimulation, on arrive déjà à anticiper un tout petit peu dans quelle direction on va. Donc, Dieu merci, c'est assez rare que le jour de la ponction ou que le moment de cette annonce soit une surprise totale pour la patiente.
J'ai terminé ce processus au mois de juin, donc ça fait pas si longtemps que ça. Il peut y avoir, de mon côté en tout cas, des cycles un petit peu plus irréguliers et des saignements plus importants. J'ai pas abordé la question de l'effet secondaire de la prise de poids, mais dans mon cas, ça a été le cas. On m'a dit que c'était pas forcément lié au traitement, enfin que c'était pas un effet secondaire forcément connu le traitement, donc voilà, je ne saurais toujours pas si c'est lié à autre chose ou à ça, mais reste que, en tout cas pour ma part, c'était à peu près 3 kilos par stimulation.
Il y a une dimension qui est évidemment émotionnelle à ce type de procédure, qui peut se traduire éventuellement par une moins bonne maîtrise de son régime alimentaire. La prise d'hormones, par ailleurs, peut favoriser la fringale. C'est des traitements qui peuvent être accompagnés d'une prise de poids. La prise de poids strictement liée à la médication est transitoire. C'est une rétention d'eau qui va se régler. Et puis on parle de 1 à 2 kilos, hein, qui va se régler en fait naturellement dans les jours ou les semaines qui suivent la fin du traitement. De la même manière, l'impact sur le cycle menstruel est transitoire. Et finalement, j'insiste sur le fait que mobiliser des ovules dans la réserve ovarienne ne diminue pas. Les ovocytes qu'on récupère et qu'on congèle seraient des ovocytes dont le corps se débarrasse s'ils ne sont pas utilisés.
Passer par un processus de conservation ovocytaire n'est pour autant pas l'assurance de mener une maternité à terme.
C'est intéressant de se dire que tout simplement on peut aussi faire ce processus-là puis avoir ensuite une vie de couple, une grossesse spontanée et ne pas utiliser les ovocytes qui sont de côté. Ou bien aussi avoir des échecs, hein, s'ils sont utilisés. Ces ovocytes, ils sont très fragiles et puis on n'a aucune garantie d'avoir un enfant à terme, quoi, en termes de ce processus-là. Donc oui, c'est un pari. D'ailleurs, dans les documents qu'on signe, hein, c'est assez flagrant, hein, on n'y a aucune garantie.
Malheureusement, c'est pas une garantie de grossesse ultérieure. Récupérer des ovules, les féconder, en faire des embryons, en faire des enfants, ça c'est quelque chose qu'on fait dans le processus classique de fécondation in vitro. Et dans le fond, on avait extrapolé les chances de grossesse de nos patientes à partir du moment où elles congelaient des ovules sur la base de ces résultats-là. Mais il nous manquait les données dans la vraie vie, et ces données-là ont été publiées maintenant par un de nos collègues, et elles vont dans la même ligne en fait. Donc non, c'est pas une certitude. Par contre, pour autant qu'on conserve un nombre d'ovules qui soit adéquat avec l'âge et le moment où on fait cette cryoconservation, on a des chances de ramener un bébé à la maison qui sont réelles.
En Suisse, on peut conserver ses ovocytes pendant 10 ans, ce qui offre des perspectives de maternité étendues pour les femmes faisant ce choix.
Cryoconserver des ovules à 35, 36, 37 ans et puis les utiliser potentiellement jusqu'à 45, 46, 47, 48 ans, non, c'est pas de la science-fiction. De manière assez surprenante, le vieillissement du corps est beaucoup moins important en termes d'impact sur les chances de grossesse que le vieillissement des ovocytes. On voit ça très bien dans le don d'ovules, des patientes de 50 ans qui font du don d'ovules en utilisant des ovules de femmes de 26 ans ont grossièrement les mêmes chances de grossesse que les jeunes femmes de 26 ans. Donc c'est vraiment l'ovule qui semble être la pierre angulaire de la discussion. À l'heure actuelle, on avait tendance à limiter à 46, 47 ans les traitements de procréation médicalement assistée. Cette limite, on est clairement en train de discuter de la changer pour que précisément les patientes puissent bénéficier de leurs ovules congelés plus tôt, jusqu'à un âge plus avancé. Pour autant que la patiente soit suffisamment en santé pour supporter une grossesse, il n'y a pas tellement de raison de limiter l'âge de l'utilisation. Et l'idée peut-être raisonnable, ce serait l'âge de la ménopause, pourquoi pas. Finalement, on a des patientes qui ont des grossesses naturelles à 49, à 50 ans, on s'entend que c'est rare, mais ça arrive. Donc tant que le corps peut produire une ovulation qui permettrait une grossesse, et cette réflexion n'engage que moi, mais une limite autour d'un âge moyen de la ménopause serait tout à fait raisonnable.
Cette préservation ovocytaire n'a pour autant pas ôté tout questionnement à Rachel.
J'ai conscience que à mon âge, peut-être aussi avec ma problématique de santé et de ce que je vois, hein, dans ma pratique de sage-femme, la fertilité, c'est pas donné à tout le monde. Je vois de nombreuses situations où c'est compliqué. Il y a le processus de conservation, mais après, il faut trouver un partenaire. Enfin, il faut... nécessaire, mais en Suisse, en tout cas, par exemple, je n'aurais pas droit à utiliser mes ovocytes si je ne suis pas mariée. Donc, il faudrait partir à l'étranger pour, par exemple, un don de sperme. Ce qui, à l'heure actuelle, n'est pas un désir de ma part. Après, je ne sais pas dans quelques années ce qu'elle sera ma décision, mais je me sens pas complètement soulagée, non. Initialement, c'était vraiment une volonté de fonder une famille avec un partenaire, vraiment de vivre la maternité dans ce contexte-là. Maintenant, je n'avais pas imaginé passer par cette étape-là de conservation de vessie, donc je pense qu'il peut-être que dans 5 ans, je ne sais pas, à 40 ans, j'aurai un autre discours. Pour l'instant, c'est quelque chose que je n'ai pas envisagé. Clairement, dans cette question de la fertilité, là, il y a des inégalités. Il y a l'inégalité sur le fait que les femmes, à partir d'un certain âge, ont les chances d'avoir un enfant issu d'une procréation naturelle diminue. La conservation est beaucoup plus compliquée que pour un homme. Donc, on sait aussi que les ovocytes sont plus fragiles que les spermatozoïdes lors de la congélation. Puis, le don n'est pas autorisé de la même manière. Donc, je trouve ça très injuste de ce côté-là.
En 2017, on a eu le droit de congeler les embryons de jour 5 ou de jour 6. On a eu le droit de faire des tests préimplantatoires sur les embryons. Bref, on est passé à une vraie FIV du 21e siècle. Et puis, plus récemment, les couples de femmes mariées ont eu droit au don de sperme. Donc, c'est deux évolutions majeures, bénéfiques, bienvenues, qui nous permettent de faire une procréation médicalement assistée qui est plus proche des standards, je dirais, internationaux. Il y a deux choses qu'on attend, le don d'ovules, et puis probablement qu'effectivement, l'autre serait l'accès pour les femmes seules au don de sperme. Mais c'est tout à fait juste, à l'heure actuelle, seuls les couples mariés, hommes-femmes, femmes-femmes, ont accès à un don de sperme.
Je pense que ça serait chouette de sensibiliser la population en général, les jeunes femmes, les jeunes hommes aussi, sur cette question de la fertilité en général, que si une femme a un fort désir de maternité, qu'elle sait que sa situation de vie fait que peut-être elle n'aura pas l'opportunité de fonder une famille dans les prochaines années qui suivent, pourquoi pas d'anticiper aussi un petit peu plus rapidement ces questions-là. Moi, je pense que je l'aurais vécu peut-être différemment si j'avais pris cette décision à l'âge de 30 ans, par exemple. Après, il y a la question de la durée de conservation quand même qui est importante à considérer. La loi autorise donc 5 ans renouvelables, donc au total 10 ans. Donc c'est clair que si on le fait très tôt, il faut aussi considérer que la durée elle est limitée.
C'est jamais trop tôt. Une fois qu'on rentre dans la trentaine, c'est jamais trop tôt pour en parler. Moi, ça m'arrive assez régulièrement de voir des patientes en consultation qui sont concernées. On discute, on fait le point ensemble. Et puis finalement, on se dit, c'est parfait. On se revoit dans 2 ans si la situation n'a pas changé. Mais en tout cas, j'insisterai pour que les patientes gardent ça en tête. Pour nous, c'est quand même un changement majeur dans la procréation médicalement assistée, un moyen d'éviter les affres du temps. Et il faut garder à l'esprit que aussi évolués que soient les traitements en procréation médicalement assistée, on n'a rien pour gommer les effets du temps et de la diminution de la qualité ovocytaire et donc la diminution du taux de succès de nos traitements liés à l'âge. Et cryoconserver ses ovules, c'est une manière de faire la nique au temps qui passe.
L'aspect financier reste un poids à faire peser dans la balance. Actuellement en Suisse, cryoconserver ses ovules n'est pas un projet accessible à toutes.
Moi, j'ai eu la chance de m'offrir ça seule, sans aide familiale ou faire un prêt. Je pense que certaines personnes ne peuvent pas s'offrir ce traitement ou doivent faire appel à de l'aide de son entourage. J'avais prévu à l'avance. Moi, j'étais un petit peu avisée quand même qu'il y aurait potentiellement possibilité que je fasse cette démarche. Donc, j'avais déjà un petit peu anticipé financièrement à mettre des réserves financières de ce côté-là. Et puis, sur le plan financier, c'est quand même, en tout cas, à mon niveau, c'était quand même assez important, sachant qu'au total, j'en ai eu environ pour 15 000 francs. On parle environ entre 6 000 et 7 000 francs par stimulation et ponction. Et encore une fois, il y a des grandes variabilités en fonction de la manière dont réagit la femme, les traitements qui lui sont donnés, le nombre d'échographies qui sont faites. Donc, il faut avoir, on nous donne une marge. Et puis ensuite, on reçoit la facture. Mais c'est vrai qu'il faut prévoir aussi assez large au niveau financier pour pouvoir payer à la fin du traitement.
On ne fait pas que de la cryopréservation à but social, on fait aussi de la cryopréservation à but médical. C'est-à-dire que des patientes qui sont soumises à des traitements qui ont un impact négatif sur leur fertilité, l'exemple classique, c'est les chimiothérapies, est maintenant remboursée par la LAMAL. Donc ça, c'est une victoire parce que c'est un crève-cœur de refuser une cryopréservation à une patiente qui n'en a pas les moyens, mais alors quand c'est dans un contexte d'urgence et de maladie grave, c'était assez pénible. Pour les autres patientes, malheureusement, ça reste une limitation. Sans aucun cynisme, je dirais que c'est un projet. C'est un vrai projet qui s'inscrit sur le long terme. On peut discuter de la pertinence de la comparaison, mais un voyage peut coûter 6 à 7 000 francs. Il ne va pas se faire du jour au lendemain, il va s'organiser sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Ce type de projet peut faire partie de la même réflexion. Et puis finalement, se dire, ok, c'est pas pour tout de suite. J'ai une année, 18 mois pour m'organiser, pour faire en sorte que ce projet soit réaliste et réalisable. Mais dans l'absolu, ça reste une limitation.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses. Vous trouverez des ressources sur la cryopréservation des ovocytes dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve dans un mois.